religions du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de Religion du Monde. Et nous poursuivons quelques instants encore avec notre invité Mohamed Chirani pour son livre « Islam de France, la République en échec » et c'est publié chez Fayard. Mohamed Chirani, parmi les défis que vous pointez du doigt et qu'il faut absolument relever, dépasser, il y a celui de la francité. Des jeunes, en banlieue notamment, une part, ne se sentent pas français. Bon, alors ce débat, il va en être pas mal question au cours de cette campagne présidentielle. Comment faire pour que ce déni de francité disparaisse, j'allais dire?
Et là, en fait, le travail est à faire au niveau de toute la société. Parce qu'en fait, comme disait Dominique Schnapper, la sociologue, politologue, pour se sentir français, il faut que la société vous voie comme français. Elle vous envoie ce message-là. Et que aussi, vous-même, vous sentez appartenir à la nation. Vous sentez la nation en vous, la patrie en vous.
Et que vous renvoyez ce message
aussi. Et que vous renvoyez ce message. Donc c'est un message mutuel. Et c'est pour ça que je considère que le message des réactionnaires est dangereux, dans la mesure où ils expliquent que l'islam, les musulmans, ou l'islam est incompatible avec les démocraties. À partir de ce moment-là, vous dites à l'autre que, en fait, quoi que tu fasses, tu peux pas t'intégrer. C'est pour ça que c'est dangereux, en fait. Le message réactionnaire. Et donc ce défi-là, et c'est pour ça qu'une des failles ou un des points d'entrée de l'idéologie radicale, c'était le point de ce qu'on appelle allégeance et désaveu. C'est-à-dire wala wal bara. Allégeance à un État musulman ou à la charia et désaveu d'un État non musulman ou qui ne pratique pas la charia.
Discours de rupture.
Discours de rupture. Mais c'est un discours de rupture, comment dire, qui est basé sur un concept théologico-politique. Et un concept d'ailleurs que j'appelle à déconstruire et à démontrer comment on le déconstruit en fait. Que ce n'est pas religieux spirituel, mais c'est plutôt politique. Et donc ce point de déconstruction d'allégeance et désaveu est un des 10 points de la réforme de l'islam auquel j'appelle. Parce qu'à la fin, je oui. pose les 10 points de la réforme.
Oui, on va pas pouvoir énoncer tous ces 10 points, Mohamed Chirani. Mais bon, les principaux points, je dirais le premier, déjà, le premier qui est fort.
Oui, c'est la question du Coran. Comment lire le Coran? Est-ce que le Coran est un bloc qui doit être lu comme si il vient d'être révélé à nous maintenant? En fait, le Coran a été révélé dans un contexte particulier qui est celui de l'Arabie au 7e siècle. Et tous les versets ne se valent pas. Et en fait, il y a une lecture littéraliste aujourd'hui qui s'est développée, notamment avec le salafisme, comme si on devait lire le Coran comme un bloc total qui doit s'appliquer en tout temps et en toute époque. Alors que le Coran lui-même dit qu'il y a des versets universels et des versets circonstanciels.
Notamment les versets concernant la guerre.
Et par exemple. Et d'autres versets concernant, par exemple, ce qu'on appelle les normes. 200 versets sur 6236 versets. Ça veut dire que c'est très minime, c'est moins de 3% du Coran. Qui aujourd'hui occupe l'actualité. L'autre point aussi, c'est le hadith. Les dits du prophète, ça veut dire le deuxième Coran. Corpus aux sources de l'islam, qui aujourd'hui ont pris une valeur, et notamment encore une fois avec le salafisme, le wahhabisme, supérieur ou égal au Coran.
Alors que certains sont, on le sait très bien, apocryphes.
Inventés. Et inventé. C'est pour ça que l'idéologie radicale, quand on prend par exemple les revues de Dal Islam de Daesh, abusent des hadiths et font dire aux prophètes tout ce qu'ils veulent. Et donc en fait, la question de la relativité et la révision des hadiths. La question aussi de l'intégration des sciences humaines et sociales dans l'étude des textes coraniques, dans l'étude de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on étudie l'islam de façon apologétique. Et c'est ça le problème. Le problème est quand on rentre dans cette logique-là, c'est difficile, on crée des fanatiques.
Sortir de l'âge, d'un âge mythique.
De l'âge d'or.
De l'âge d'or
aussi. Oui, exactement. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a, et ça, on retrouve ça dans l'islam politique, dans le salafisme. Ça veut dire un âge d'or qui a existé pendant 3 siècles et qui n'existe plus aujourd'hui. Et la seule manière qu'il réexiste de nouveau, c'est de revenir à une certaine façon de pratiquer l'islam, ça veut dire telle qu'elle est présentée par eux, pour arriver à une sorte d'âge mythique. Alors que cet âge, il y a eu un âge aussi de grandeur, de savoir, de science, mais il n'était pas comme on l'imagine. Et les gens ne vivaient pas l'islam tel que le vivaient les Saoudiens aujourd'hui.
Hein. De même, Mohamed Chirani, vous dissociez islam et politique, alors que, généralement, on présente toujours l'islam et la politique comme intrinsèquement liés, comme un bloc, et cela dès son origine. Et vous, vous vous positionnez contre cette vision-là.
Mais ceux qui présentent l'islam et politique comme liés se réfèrent à l'histoire du califat, à l'histoire des premiers, ce qu'on appelle écoles juridiques, qui ont fleuri à l'époque du califat, où pouvoir et politique sont liés, et pouvoir politique et religieux sont liés. Donc pour eux, c'est indissociable. Mais si on se réfère au texte coranique et à la vocation spirituelle du Coran, et là je cite par exemple un grand révolutionnaire réformateur soudanais, Mohamed Mahmoud Taha,
oui, qui est mort exécuté
pour avoir parlé de la suprématie des versets du Coran de la Mecque, où les musulmans étaient minoritaires, où il y a des règles éthiques et de foi, sur le Coran ou les versets du Coran de Médine qui sont circonstanciels. Et on est plus dans une logique d'état de gouvernance. Mais, je rappelle, un état créé dans une circonstance exceptionnelle pour défendre la liberté du culte. Parce que la liberté du culte n'était plus possible à la Mecque. Et cet état-là a porté la religion jusqu'au moment pour qu'elle puisse s'épanouir. Et le prophète, en mourant, n'a laissé aucune indication, ni le Coran, sur la gouvernance ou le gouvernement.
Oui, c'est
dommage,
d'ailleurs.
Parce que c'était pas le plus important, et c'était pas la vocation. C'est-à-dire, ce qui a été laissé dans le Coran, c'est quelle relation on doit entretenir avec Dieu et entre nous, entre humains, d'un point de vue éthique et spirituel.
Et pour les femmes, d'ailleurs, en mourant aussi, vous faites allusion aux dernières phrases, semble-t-il, du prophète.
Je vous conseille de prendre soin des femmes parce qu'ils connaissaient la nature patriarcale des hommes arabes d'Arabie. Et là, ils donnent ce conseil-là sur la question des femmes. Et on voit aussi, je cite, une réformatrice, une réformiste musulmane du Maroc, qui, elle, parle comment aussi les textes ont été manipulés sur la question de la femme. Et en fait, aujourd'hui, les gens font plus référence à des écoles juridiques qui interprètent l'islam tel que eux, ils le vivaient sociologiquement à l'époque, qu'à l'islam lui-même. Et en fait, la sociologie de l'Empire abbasside est devenue supérieure carrément au Coran et au message original de l'islam.
Il y a une phrase, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, Mohamed Chirani. Il y a une phrase que vous citez, alors je ne sais plus qui l'a, elle est de qui. C'est les réformateurs de l'islam, ils sont ou bien dans les universités françaises, ou bien dans les cimetières.
Oui, exactement. C'est un journaliste italien qui disait ça.
Ah oui, des Corriere della Sera, c'est ça.
Exactement, oui. Et oui, et malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé les mosquées et parler au nom de l'islam à des gens qui n'ont pas le niveau, en majorité. Je dis pas tous, mais en majorité. Et les intellectuels se sont retirés dans les salons et dans les universités, alors qu'il faut aller parler à la masse.
Il faut parler à la masse. Un tout petit mot sur la campagne présidentielle à venir.
Donc en fait, mon livre, je l'adresse au futur président de la République pour des voies de réforme de l'islam qui garantiront, s'ils sont appliqués, garantiraient la paix civile et la coexistence pacifique pour les décennies à venir.
Aux musulmans aussi.
Et aux musulmans aussi, bien sûr.
Hein, même d'abord,
à toute l'opinion publique et aux musulmans, oui, bien sûr.
Merci Mohamed Chirani. Donc je rappelle, l'islam de France, la République en échec, c'est chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité. Les frères Kouachi en janvier 2015 à Paris, les frères Abdeslam le 13 novembre, les frères Mera en 2012 à Toulouse, les exemples de frères soudés dans des actes terroristes n'ont pas manqué les années passées. Travaillé depuis longtemps par la question de la violence et inspiré par l'actualité, le psychiatre et psychanalyste Gérard Haddad s'est replongé dans les textes bibliques pour y revisiter la question de la relation fraternelle et il y relève qu'elle s'exprime en premier à travers la rivalité qui illustre le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Gérard Haddad, bonjour.
Bonjour.
Le complexe de Caïn, terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle aux éditions Premier Parallèle, à resituer dans le prolongement de votre précédent livre sur le fanatisme, est pour vous plus encore que le complexe d'Œdipe à l'origine des grandes tragédies de l'histoire.
nous sommes confrontés au fond à deux schémas très différents pour expliquer la violence. Le schéma freudien, dont nous connaissons tous le fameux complexe d'Œdipe, qui en d'autres termes parle du désir de parricide, c'est-à-dire du désir du meurtre du père ou de la mère, ça dépend du sexe des sujets. Donc chez Freud, c'est ce désir de meurtre du père, du parricide, qui est fondateur. Dans Totem et Tabou, il pense que c'est là qu'est l'origine de la société. Et nous avons le schéma biblique, auquel on ne prête pas attention suffisamment, puisque dans la Bible, il n'y a pas de parricide. Il n'y en a aucun, pratiquement. Mais pas pratiquement, il n'y en a aucun. C'est bizarre, d'ailleurs, il n'y en a aucun. Dans la Bible, dès le chapitre 4, c'est-à-dire dès les premières pages, ce qui fonde la société humaine, c'est le fratricide, le meurtre du frère. C'est ce fameux meurtre originel de ces deux frères, Caïn et Abel. Et Caïn, parce qu'il était jaloux de son frère, parce que Dieu avait préféré le sacrifice de Abel, le berger, tue son frère. Et ce meurtre, ce fratricide, ce meurtre des frères, cette hostilité, cette rivalité très violente entre frères, initiale, par la suite, elle est métabolisée, elle est refoulée, elle peut être transformée en sentiment d'affection, de tendresse, de solidarité, tout ce que vous voulez. Mais à la racine, je pense. Et nous, cette racine, vous la retrouverez partout. Vous la retrouvez même dans les écrits de Freud. Vous la retrouvez chez Goethe, vous la retrouvez dans la Bible, vous la retrouvez chez Shakespeare, vous la retrouvez dans toute la littérature mondiale. Il y a une histoire de rivalité et de meurtre, Saint-Augustin, etc. D'où cette idée de proposer, au fond, une petite révolution dans la pensée psychanalytique qui consiste à dire qu'au fond, nous avons deux... Il y aurait en quelque sorte, à l'origine, deux complexes, c'est-à-dire deux désirs de violents, de meurtre, l'un à l'égard du parent, de sexe opposé, du père, essentiellement, et l'autre, du frère ou de la sœur. Comment les concilier? C'est le but de cet essai.
Alors, cet essai qui met malgré tout en avant un paradoxe, parce que ce qui vous a inspiré, Gérard Haddad, ce sont notamment les frères Kouachi, les frères Nemouche, les frères Mera. Or, ces frères sont unis pour des massacres. Ces frères sont unis pour des meurtres.
Les frères sont toujours unis pour des meurtres. Les guerres, prenons le cas des guerres. Dans le cas des guerres, je considère que dans l'humanité, nous sommes, on pourrait dire, tous les êtres humains sont des frères, réels ou imaginaires. Cette idée de tuer son frère, son consanguin, le frère au sens strict du terme, c'est une idée tellement affreuse, tellement difficile à admettre, elle est refoulée très très profondément, à tel point que Freud n'en a pas fait, ne l'a pas théorisé, fait que nous sommes contraints de déplacer cette volonté de meurtre du frère réel à quelqu'un d'autre, un étranger. D'ailleurs, quel est le premier étranger que tout homme ou toute femme rencontre? C'est son frère ou sa sœur. Ce sont les premiers étrangers qui sont dans la maison. Qui c'est celui-là? Quand on est aîné, comme c'est mon cas, un jour vous voyez débarquer quelqu'un qui vient, alors que vous êtes encore dans cette période de désarroi de l'enfance, vous voyez quelqu'un qui vient prendre votre place, qui semble jouir de plus d'avantages et de plus de soins que vous. Donc on déplace. Tuer son frère, c'est abominable. Et puis, l'amour des parents, la loi parentale fait qu'on va refouler. Et donc, on va la déplacer. Le mécanisme du déplacement, vous savez, c'est un des grands mécanismes psychiques sur lesquels Freud a beaucoup écrit, et Lacan après lui. On déplace du frère réel au frère lointain. Ça va devenir donc l'étranger, l'ennemi héréditaire. Mais au fond, à la racine des guerres, à la racine de toutes ces violences, je pose la racine inconsciente de toute cette violence, c'est la haine du frère refoulée profondément.
Par exemple, vous estimez que le grand massacre de 14-18, c'est une immense guerre fratricide?
Toutes les guerres sont des guerres fratricides. Il y a d'ailleurs des scènes très émouvantes dans cette guerre 14-18, où on a vu la fraternisation d'Allemands et de Français. Oui, toutes les guerres sont des guerres fratricides.
La guerre entre les sunnites et les chiites en est un exemple criant.
Celle-là, elle est plus que criante. Même familialement, nous rappelons que quand même, à l'origine, il y a eu le meurtre d'Ali pendant sa prière, décapité alors qu'il était prosterné dans sa prière. Et c'est quand même la famille du prophète fondateur de l'islam. on s'est entretué très très joyeusement à la fondation de l'islam. Omar, Othman, Ali, Hussein, tous les fondateurs de l'islam sont morts sous les coups de leurs frères.
Mais alors, revenons au frère Kouachi, hein, symbole effectivement de cette union de frères, là oui. Pour le coup, pour détruire l'ennemi. Pour eux, l'ennemi, c'est la société occidentale.
Ce sont des gens qui sont complètement désinsérés de la société. Au moment où ils commettent leur acte, ils savent qu'ils vont tôt ou tard être tués. C'est une espèce de suicide collectif qu'ils organisent. Encore plus éloquent, les gens qui ont commis l'attentat du Bataclan. Ils savaient que la fin de l'aventure, si on peut appeler ça une aventure, la fin de cette barbarie, c'est leur propre mort. Je pense que beaucoup de ces terroristes, beaucoup de ces fanatiques terroristes, ce sont des gens profondément déprimés, qui se sentent exclus, qui pensent que il faut en finir, ils veulent en finir de leur vie, les kamikazes, si c'est pas du suicide, c'est le suicide par excellence, mais ils veulent mourir en traînant avec eux ceux qu'ils considèrent comme les causes de leur désespoir radical. Voilà. La plupart de ces gens-là se sentent exclus de la société. Et je voudrais critiquer une notion qui circule beaucoup, qui est celle du judéo-christianisme. Quand vous dites que notre culture, et c'est d'ailleurs pas tout à fait exact, quand vous dites que notre civilisation et ses racines sont judéo-chrétiennes, mais que vont penser les 5 millions de musulmans qui vivent en France ? Or, il suffit de réfléchir deux secondes. Cette civilisation dite occidentale, elle a été aussi nourrie par des apports musulmans. S'il n'y avait pas eu les Abbassides, la philosophie grecque aurait été perdue. Ce sont quand même les musulmans, en partie, peut-être pas complètement, mais ils ont puissamment contribué à travers toute la pensée, les péripatéticiens andalous comme Averroès et d'autres. Ils ont participé activement à la civilisation, ils ont apporté à l'Occident l'algèbre, les chiffres, le zéro, des instruments de musique comme le luth, comme le violon. Donc, il faudrait arrêter avec cette expression malheureuse de judéo-christianisme et je propose de la remplacer par « notre société a des racines abrahamiques ». En disant cela, vous intégrez le musulman français, puisqu'au fond c'est celui-là qui m'intéresse en premier lieu, le musulman français se sent inséré culturellement. Cette exclusion culturelle de dire que l'islam, c'est l'étranger par excellence, ne peut que renforcer. Quand vous vous trouvez dans cette situation d'exclusion, vous créez, et plus cette exclusion est grande et radicale, vous créez comme ça des solidarités entre des frères, des gens proches, qui peuvent après s'entretuer entre eux un peu plus tard. Donc, voilà comment je comprends le mécanisme. Il y a d'une part le déplacement dont on a parlé, mais aussi ce phénomène de coagulation qui se produit dans des milieux qui sont hors société, dans les gangs, dans les milieux de délinquants qui sont souvent conquis par les théories fanatiques.
Et là, en tant que psychanalyste, vous insistez beaucoup sur la défaillance du père, sur l'absence des pères.
Oui, c'est mon schéma, au fond. Au fond, je propose un remaniement de la doctrine freudienne en l'articulant autour de deux foyers conflictuels. Le premier, c'est le foyer paternel qui émerge du fameux complexe d'Oedipe et qui énonce cette loi de l'interdit du meurtre. Cette loi paternelle inhibe l'autre complexe, le complexe que j'appelle le complexe, j'appelle d'autres que moi l'ont fait avant moi d'ailleurs, inhibe ce complexe de Caïn, cette volonté du meurtre du frère. Mais si l'autorité de la loi paternelle, si son prestige décline, à ce moment-là, le complexe fraternel prend le dessus, c'est-à-dire le meurtre du frère, qui était jusque-là inhibé, qui était mis sous boisseau, se déchaîne. Le fanatique est un Caïn qui se déchaîne.
Le fanatique est un Caïn qui se déchaîne, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'autorité paternelle, la violence, en gros, est permise.
Voilà. À partir du moment où vous ne reconnaissez plus l'autorité paternelle qui, entre-temps, s'est déplacée au niveau de la loi sociale. Si celle-ci n'est plus respectée, si elle n'a plus de prestige, si vous ne l'aimez plus, à ce moment-là, la violence fraternelle entre frères, frères imaginaires, se déchaîne et j'en arrive à cette conclusion que tout terroriste est un Caïn qui se déchaîne.
Vous avez bien connu le Maghreb pour y avoir vécu, Gérard Haddad. Comment expliquez-vous cette irruption de la radicalité, de la violence chez des jeunes musulmans ?
Écoutez, moi je viens de Tunisie, c'est un pays, comme vous le savez, auquel je suis très attaché, où je suis né, auquel je dois beaucoup. C'est le pays le plus paradoxal de tous les pays arabes aujourd'hui. En ce sens que c'est le pays arabe qui vit sous un régime démocratique, qui est le plus avancé au niveau culturel, avec le Liban. Et en même temps, c'est le pays qui produit le plus de djihadistes. Le nombre de djihadistes tunisiens est le nombre le plus élevé, surtout en rapport avec la population tunisienne, qui n'est pas si élevée, de l'ordre d'une dizaine de millions d'habitants. C'est une question très curieuse, enfin un problème très important sur lequel on devrait réfléchir. La société tunisienne est un peu fracturée entre une zone, disons, côtière, plutôt riche, plutôt modernisée, européanisée, et vous avez une partie importante à l'intérieur et dans le sud et à l'ouest du pays, une grande partie de la population qui vit dans une sorte de misère qui s'est aggravée de ces dernières années avec la crise économique que connaît la Tunisie. Et c'est dans ce milieu-là, dans ce milieu exclu, encore une fois, c'est cette exclusion qui crée le terreau de recrutement des fanatiques, dans des familles souvent démunies.
Et pour le jeune Français, par exemple, converti à l'islam, qui part en Syrie, quelle est votre explication ?
Parmi ces convertis, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des juifs. Il y a, je ne sais pas, on m'a dit 80 juifs qui sont partis en Syrie, du côté de Daesh, qui se sont convertis. C'est la question du fanatisme que j'ai traité dans un précédent livre, en essayant de dégager les facteurs psychologiques et culturels, si vous voulez, de cette question du fanatisme. Ce sont des gens très déprimés, des gens qui sont aux franges de la psychose et qui trouvent dans les doctrines fanatiques leur raison de vivre. Alors, je prends le cas de ces juifs français qui sont devenus musulmans et qui sont allés mourir en Syrie. Il y a le rejet de leur culture d'origine et il y a une désinsertion profonde de ces sujets. C'est ainsi que je l'explique, mais il faudrait les... Vous savez, chaque individu, j'ai travaillé avec une psychologue qui s'occupe de la déradicalisation. Chaque sujet qui part, qui se radicalise, a une histoire familiale. Et cette histoire, elle est souvent très douloureuse, très compliquée. Je peux vous citer un seul cas. Un monsieur, un musulman qui a épousé une juive. Et de cette union sont nés des enfants. Ce couple est bancal. Et ce monsieur a l'habitude d'insulter sa femme et son fils en le traitant de juif. Et le fils dit à son père, mais papa, je suis comme toi, je suis musulman comme toi. Et bon, le père était un peu, un père carent, un père... Eh bien, le fils, pour prouver à son père qu'il est aussi musulman que lui, est parti en Syrie. Et il s'est fait tuer là-bas. Nous savons qu'il est mort, puisque cette dame qui suivait cette famille est au courant des détails de cette histoire. Chacune de ces histoires est une tragédie. Il y a une crise sociale, une crise morale d'une profondeur considérable. Et c'est sur ce terreau de désarroi, de désorientation, où tous les repères sont brouillés, que les pires des choses sont possibles.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Gérard Haddad, on terminera notre entretien sur la relation fraternelle, le thème de votre livre, par une note, j'allais dire, positive. L'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qui, après avoir été vendu par ses frères jaloux de lui, les retrouve et leur pardonne.
La Bible, le livre de la Genèse, est construit littérairement d'une manière absolument remarquable. C'est-à-dire qu'il décrit une sorte d'arc littéraire qui part d'un meurtre, Caïn, tuant Abel, et qui se termine par une tentative de meurtre d'un frère, Joseph, le frère merveilleux, lequel Joseph, après avoir s'est trouvé dominant ses frères, il aurait pu se venger, eh bien il renonce la vengeance, vous savez, une très belle phrase dans la Bible, une des plus belles, la vengeance, laissons-la à Dieu, comme la vérité absolue, elle n'est qu'à Dieu. Nous, contentons-nous de la rechercher. Et Joseph a ce geste magnifique du pardon complet. il dit à ses frères, vous n'y êtes pour rien, c'est la destinée, c'est le schéma divin, c'est la main de Dieu qui a manigancé tout ça, vous n'y êtes pour rien. Il les innocente, plus ou moins, après avoir réglé ses comptes quand même avec eux. Il faut quand même, avant de pardonner, il faut établir une certaine justice. Le pardon va avec la justice préalable. Et je trouve que cette ouverture sur Joseph, qui est d'une grande actualité, m'est arrivé plusieurs fois de rapprocher le geste sublime de Joseph avec le geste sublime de Mandela, qui pardonne et qui dit cette phrase absolument superbe, si on pouvait tous l'intégrer et en faire sa devise, « Si je n'avais pas pardonné, je serais resté en prison intérieurement ». La question du pardon est une question extrêmement importante. Elle dépend de paramètres très complexes. On ne peut pas la régler comme ça. Et la Bible nous ouvre cette espérance du pardon après avoir établi une certaine justice. Et laisser les vengeances, les renvoyer à la divinité, ça vaut beaucoup mieux ainsi.
Merci Gérard Haddad. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le complexe de Caïn, terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle, et c'est édité aux éditions Premier Parallèle. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
International.